Ceci est l'étude numéro 5. Chers frères et sœurs et chers amis, la Bible nous dit dans Saint Matthieu, au chapitre 18, versets 1 à 5, « Si vous ne devenez comme des enfants. » Il est dit que à ce moment, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui demander « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là ? Voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, et ceci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille. » Saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5. Jésus-Christ a également dit « Qui m'a vu, a vu le Père. » Lors d'un pèlerinage à Bethléem, un pasteur marchait le long d'une falaise au petit matin. Des grottes creusées dans la paroi du rocher abritaient des familles. Un couple le voit et lui fait signe d'approcher. Et c'est donc le pasteur que nous laissons continuer de parler. L'épouse était vêtue de noir, cuisait des galettes en riant. Le mari me proposa du thé à la menthe. Et mon regard fut attiré par un petit enfant de 2 ans environ. Il me dévisageait de ses yeux immenses, sombres et tellement doux. Je m'approchai de lui pour mieux le contempler. Une pensée me traversa comme un flash de lumière. Dieu, l'absolu, la vie de toute vie, l'énergie qui fait danser les galaxies, l'amour de tout amour, le souffle de nos souffles, l'Éternel avait donc pris visage, un visage d'homme, en un enfant qui est exactement semblable à celui-là. Dieu en était venu là par amour, en ce lieu même. Et en effet, qui m'a vu, a vu le Père. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 9. Certaines images de Dieu qui traînent dans nos têtes sont pires que des blasphèmes. Lorsque j'étais gamin, les terreurs que l'on nous inspirait sur l'enfer me poursuivaient dans mes cauchemars. Aussi, je courais dans une église noire et froide. Une main de géant cherchait carrément à me saisir. Dieu était l'adulte suprême et il réclamait de moi la perfection pour que je sois absolument digne de sa clémence. Il y avait beaucoup d'appelés, je me rappelle de ce verset, mais hélas, peu seraient élus. Un contresens horrible sur cette phrase d'évangile faisait de moi un exclu de l'amour de Dieu, exactement comme pour les distributions de prix où je n'avais jamais décroché la moindre bonne note. Bien sûr, attention, ne mélangeons pas tout, ce serait évidemment totalement insensé si nous nous permettions de penser que nous pouvons nous comporter comme ceux qui ne croient ni en Dieu, ni en celui qui représente le mal, et de braver tous les commandements de Dieu, et cela, à mon avis, pas seulement au mien, mais ce qui est vraiment écrit dans la Sainte Parole, serait pas seulement de l'inconscience, mais ce serait carrément de la stupidité. Mais revenons à notre histoire. Quand j'étais petit, le Père Noël m'avait comblé du livre Elmer, le petit éléphant assorti d'un fouet. Et la Trinité en laquelle je croyais en ce temps-là était le Père Fouettard, le bon Dieu qui t'a puni, et le Père Noël. Tous les trois m'imposaient de me tenir bien tranquille. Le petit Jésus qui allait à l'école en portant sa croix dessus son épaule ne ressemblait pas du tout au garçon que j'avais vu dans une grotte de Bethléem. Il était tiré à quatre épingles, propre comme ces enfants sages que l'on me donnait en exemple pour me faire honte. Mais un jour, et nous revenons aux Saintes Écritures, oui, un jour, on présente des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Les compagnons de Jésus sont vraiment agacés par cette intrusion. Allez, allez, dégagez un peu. Mais Jésus proteste à son tour. Laissez les enfants s'approcher de moi. Ne les repoussez pas, car c'est à leur semblable qu'appartient le royaume de Dieu. Vraiment, je vous assure, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 13 à 15. Oui, Dieu nous dit encore dans Ésaïe, au chapitre 66, versets 12 à 13, « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai contre ma poitrine et je vous bercerai sur mes genoux. » Il ne s'agit pas de faire ou de donner beaucoup, mais plutôt de recevoir et d'aimer beaucoup. L'effort, la volonté, le progrès personnel sont nécessaires dans le domaine des sciences, des techniques et des sports. Mais au royaume de l'amour, il suffit d'un état de réceptivité, d'accueil et de désir. Fais-toi capacité et je me ferai torrent, dit Jésus-Christ. Un paradoxe ne cesse de me surprendre. L'homme devrait attendre de sa propre industrie, de son propre effort, tout ce qui concerne l'art de survivre. L'art d'affronter les obstacles de toutes sortes et de les vaincre. Or, sur ce chantier, il garde parfois une conscience magique d'homme primitif attendant un secours divin. Il espère la pluie au lieu d'accomplir des travaux d'irrigation. Il attend que la nourriture lui tombe du ciel au lieu de l'extraire laborieusement du sol. Il est tellement certain que Dieu devrait prendre les choses en main qu'il l'accuse même lorsque cela tourne mal. Surtout, il ne prie jamais. Il est bien trop fier pour cela. L'humilité, c'est surtout pas son truc. En revanche, dans le domaine de la vie spirituelle, où aucune industrie n'est de mise, où il n'est question que d'accueillir, l'homme s'agite et se tourmente. Il veut devenir chrétien absolument seul par ses propres moyens, ses propres efforts, sans le Christ, être capable d'aimer sans l'amour. Le voilà qui burine sa sainteté comme le sculpteur creuse un visage. Le voilà qui fait dépendre son aventure intérieure de mille et une techniques savantes. Le progrès de l'univers n'est pas une concurrence faite à Dieu, ni une déperdition vaine des énergies que nous lui devons. Plus l'homme sera grand, plus l'humanité sera unie et consciente et maîtresse de sa force, et plus aussi la création sera belle, plus l'adoration sera parfaite, plus le Christ et le corps de Christ seront dignes de résurrection. Alléluia. En réalité, il serait tragique d'opposer ces deux battements d'un même cœur, contemplation et action. Un chrétien peut être à la fois, oui, il peut être à la fois un savant acharné, pourquoi pas, à dépister les causes d'un cancer, et un homme humble. Ça ne devrait pas l'empêcher, humble devant son Créateur. Nous avons tous de la peine à être humbles. L'apôtre Paul raconte paisiblement des aventures à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Naufrage, arrestation, torture et danger de toutes sortes. En cela, il se comporte avec courage, énergie et volonté. Le même apôtre Paul, dans la vie spirituelle, s'en remet totalement à Dieu comme un enfant. L'Esprit vient en nous en des murmures ineffables et nous apprend à dire « Abba, Papa chéri » à l'adresse de notre Père Céleste, Romains chapitre 8, verset 15. Qu'il faille se faire petit pour aimer, tous les amoureux le savent très bien. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait mama quand on la touche, a chanté Brassens. Celui qui aime ne peut pas dominer l'être aimé. Tout amour est à l'image des relations divines. Le Père est tout don et le Fils tout accueil. Chacun n'est qu'affirmation de la tendresse de l'autre. C'est en cet absolu que l'aventure créée a commencé et c'est vers lui que tout s'accomplit. Celui qui a aimé et a été aimé, ne serait-ce qu'un seul jour, un seul instant, a vécu dans le sillage de l'essentiel et il ne l'oubliera plus jamais. Il s'est trouvé vivant et justifié d'exister. L'enfant, à moins que l'esprit de duplicité ne l'ait déjà blessé, et grandeur nature. Il n'y a chez lui ni arrière-pensée, ni double jeu. Il s'avance sans armes, sans masque et surtout sans calcul. Dieu a fait l'homme simple et l'homme cherche bien des complications. D'où est née la complication du prince du mensonge. Ça, je crois que c'est sans aucun doute la réalité. Ah, tu croyais que Dieu était bon, dit le prince du soupçon. Mais non, il ne veut pas tout partager. Il sait garder l'essentiel. Viens, tu connaîtras tout. Tu comprendras. Tu sauras le pourquoi de toute chose. Entrer dans cette séduction, eh bien, l'homme s'arrache hors de l'amour dont il est issu. La plaie ne se refermera pas. Cette blessure est à la fois son tourment et son trésor. Jésus pourra s'y greffer par la blessure de son cœur. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Depuis cette déchirure, l'homme place un miroir devant lui. Il rôde autour de sa propre personne. Même lorsqu'il se dénigre, c'est encore pour mieux savourer le caractère unique de son être. L'homme a oublié sa source, perdu le cœur de son cœur. Son centre de gravité est monté jusque dans son cerveau. Il suppute, dissèque et analyse. Séparé d'avec Dieu, il connaît la division à l'intérieur de lui-même et à l'intérieur du couple. Une série d'accusations en chaîne commence. Tout se complique. Il est dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes lézardées qui ne gardent pas l'eau. » Ne méprisons pas pour autant l'être compliqué, bourré de complexes. Que savons-nous de lui ? Dans quel abîme d'humiliation et de rejet a pu sombrer sa cargaison de rire, de fraîcheur et de poésie ? On ne le lui a jamais dit. Ce qu'il y a de plus important en toi, eh bien c'est toi. Il a été calibré, rectifié et normalisé. On le dissuadait de suivre son inspiration. Il apprenait à tricher. Il devait forcer son talent comme l'âne de la fable pour tenter désespérément de plaire. Chers amis, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, répète la Bible. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 ainsi que Actes des Apôtres chapitre 5 verset 29. Pour cela, il suffit de se laisser aimer par lui. Lui, il nous veut selon notre espèce, est-il écrit dans la Genèse au chapitre 1. Tu vivras, dit-il. Et il dit cela à chacun. Ézéchiel 16, verset 6. Comme un jeune fiancé met sa joie en celle qu'il aime, ton Dieu mettra sa joie en toi. Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Or, sa joie, c'est ton bonheur. Deutéronome, chapitre 30, verset 9. Je ne veux pas renier les démarches de l'intelligence humaine, mais pour lire au travers du réel, il faut bien plus, beaucoup plus de cœur que de raison. Croyez-moi, la simplicité de l'enfant lui ouvre la saveur du vrai. Le monde ne se laisse pas dérober. Il s'agit de l'accueillir et non de le posséder. Pourquoi cites-tu souvent des femmes, me disent certains collègues, amis, avec une nuance de reproche. Eh bien, c'est très simple. Les femmes, elles, vont bien plus vite à l'essentiel, tel que l'univers des personnes, le monde de la relation et le royaume de Dieu. Il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25, « Ah, Père, je te rends grâce d'avoir caché ces choses aux puissants et aux savants, et de les avoir dévoilées aux petits et aux simples. À ceux qui désirent être grands en ce monde, de la seule grandeur qui compte, Jésus-Christ propose l'exemple d'un enfant. Il insiste. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. Il ne s'agit pas là d'une condamnation et encore moins d'un rejet. Jésus semble plutôt nous dire, si tu n'ouvres pas tes volets, eh bien le soleil ne pourra jamais entrer. Si tu te refuses à l'amour, tu passes à côté de la vie. Jésus n'a pu rejoindre ses contemporains avec une chance d'être entendu qu'en s'adressant à chacun d'eux à cette disponibilité de l'enfant. Les scribes et les pharisiens n'ont pas pu l'accueillir. Tout est trop bien organisé dans leur tête. Ils sont tellement certains de leur certitude. Ils ont réduit à rien le projet de Dieu sur eux. Parole terrible. Elle est de Jésus. Et oui, car vous pouvez lire, croyez-moi, dans Saint Luc chapitre 7, verset 30. Ils ont réduit à rien le projet de Dieu sur eux. Ça, c'est une parole de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Nicodème, qui était un homme d'âge mûr, vient trouver Jésus en pleine nuit, tout encombré de sa grande science, Jésus ne lui demande pas autre chose que de renaître, naître à nouveau, qui veut dire la nouvelle naissance, la conversion tout simplement. « J'ai perdu l'enfance, disait un jour un pasteur, je ne pourrais la reconquérir que par la sainteté. Quelles sont donc ces facultés qu'il nous faut retrouver sous peine de passer à côté de l'essentiel? Quelles sont ces mystérieuses prérogative de l'enfant qui seul trouve accès au mystère d'un Dieu amour. L'esprit d'enfant est fait de limpidité et de transparence. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous est-il dit dans Saint Matthieu, au chapitre 5, verset 8. Vous avez bien entendu, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. L'esprit d'enfance nous libère des retours sur le passé et des angoisses devant l'avenir. L'amour devient alors possible, car il n'y a d'amour qu'au présent. Les hindous le disent depuis si longtemps, la rencontre de l'absolu ne peut avoir lieu que ici et maintenant. Maintenant, est le moment où affleure l'éternité. Ici est le lieu où se propose l'infini. L'esprit d'enfance est une aptitude à l'émerveillement. Reconnaissance innée ou acquise de la bonté de la vie. Reflet du regard de Dieu lorsqu'il a vu que cela était bon. Lisez Genèse chapitre 1 verset 31. L'esprit d'enfance est une faculté d'accueil, de sensibilité à l'essentiel. L'enfant est sur la longueur d'onde de l'amour. Il est en relation avec des personnes, pas avec des idées. Si sa confiance est trahie, comment guérira-t-il de cette blessure? Le cynique n'est souvent qu'un enfant très déçu. L'enfant ne croit pas au mal. En cela, il témoigne que le bien est plus vrai. Ce n'est pas la cécité qui est le réel, mais c'est la vue. La méchanceté est un cancer. Elle n'est pas l'organe originel. La souffrance est une transition. Elle n'est pas un état durable. L'enfant est désarmant parce qu'il ne renonce pas de sitôt à la satisfaction de son désir. Il dit « Mama, je veux un verre d'eau. Tu vois bien que je suis occupé », lui répond-elle. Mais un instant plus tard, il renouvelle sa demande. Voyez-vous, chers amis, en réalité, ce n'est pas tout à fait le verre d'eau qu'il réclame vraiment, mais un moment de tendresse. Il est boulimique de l'essentiel. Dans notre vie spirituelle, nous nous attachons tellement au don de Dieu que nous en arrivons à l'oublier, lui, le donateur. Et c'est bien là le comble de l'ingratitude. Il est bon alors que les événements nous dépouillent pour qu'enfin nous ayons accès au seul trésor véritable. Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il t'ait trouvé. L'enfant est désarmé. Béatitude de sourire et de larmes. Son rire est à la mesure des 7 pleurs vulnérables. Il n'a pas encore revêtu ses masques de personnage qui rendent la communication si difficile. Devenu adulte, le petit homme devra être lucide comme le serpent. Mais à quoi bon la lucidité si on ne garde pas la candeur de la colombe? Attention, c'est écrit dans Saint Matthieu chapitre 10 verset 16 et ça vaudrait la peine de réentendre ce verset. Quand l'enfant est devenu adulte, eh bien ce petit homme devra tout de même être lucide comme le serpent. Mais à quoi bon, chers amis, la lucidité si on ne garde pas la candeur de la colombe? Voyez-vous, hier, j'entendais un jeune de environ 18 ans. Il a dit « Nous sommes protégés de toutes parts. Pas d'aventure. » Donc aucune aventure possible, pas de risque, pas d'initiative, ni le choix, ni la responsabilité. Nous sommes encadrés, guidés, assistés et assurés. ma mort, peut-être, va savoir, va m'appartenir. Et encore, ce n'est même pas sûr. Que de contresens au sujet des propos du Christ sur les enfants. Comme il s'agissait d'être soumis et sage, effacé, incapable d'originalité et de souveraineté. Comme s'il s'agissait de retomber en enfance. Un médecin psychiatre, le docteur Prigent, prétend que la plupart de ces malades le sont parce que il fut bâillonné, en quelque sorte en eux, le véritable enfant qui demandait à vivre. De l'image évangélique d'un enfant, certains n'ont retenu que l'incapacité à se déterminer par eux-mêmes. Ils ont même refusé d'y voir le goût et la capacité à jouer leur existence à chaque instant, à inventer la vie à chaque minute, à vivre avec grâce le moment, à n'être presque jamais satisfait, mais presque toujours heureux, à rêver chacun de ses gestes et à agir chacun de ses rêves. Et il ajoute ailleurs, un enfant est un concentré d'énergie vivante qui va exploser progressivement pendant toute son existence. C'est une source bouillante qui deviendra un fleuve puissant, une tension souveraine vers la vie. Gare, si vous en faites seulement des êtres raisonnables, raisonneurs, raisonnants, des individus contrôlés, calibrés, planifiés, des sujets adaptés et raffinés, ils ne seront jamais vraiment heureux. L'esprit de ce monde, esprit de mensonge, de division, de profit, de compétition, nous invite à entrer dans un moule. Ce ne sont pas les années qui nous vont vieillir ou qui nous feront vieillir. Ce sont les compromissions avec la bêtise, avec la lâcheté et la médiocrité. Ce qu'il y a de plus précieux en nous, eh bien c'est nous. Il nous a fallu renier notre originalité trop déroutante, apprendre à faire semblant, à simuler, à dire non lorsque nous pensions oui, et à dire oui lorsque nous pensions non. L'enfance spirituelle est à l'opposé de la mièvrerie et du gâtisme. Souvenez-vous du petit prince de Saint-Exupéry. Quelle virginité émotionnelle dans le cœur de ce petit garçon. Comme les grandes personnes visitées sur leur planète sont fades et inconsistantes à côté de lui. Souvenez-vous aussi de l'Alouette, comme elle est vivante, cette Jeanne rayonnante de liberté devant ses bourreaux. Miracle d'espièglerie et d'audace devant les politiciens qui la croient folle. En comparaison, les autres sont dérisoires. Par contraste, oui, les autres sont carrément des pantins. Qu'est-ce qui les caractérise tous? Ils ont gardé un cœur d'enfant. Ils sont transparents comme une source. Ils ont même accroché ce cœur à une étoile. Ce sont de grands amoureux. Les amoureux ne peuvent pas vraiment vieillir. Car voyez-vous, l'amour est toujours jeune, comme Dieu. Leur secret, c'est de se savoir aimer de Dieu. Ce regard posé sur eux les guérit carrément de la peur. Cet amour leur donne une audace extrême. Dieu leur demande l'impossible, ils tentent également l'impossible. Voyez-vous, les bûchers de la bêtise peuvent tordre leur corps, mais ils ne feront jamais plier leur âme. Désirons-nous retrouver notre cœur d'enfant, chers amis, cette part refoulée en nous qui est en quelque sorte prisonnière? Entendons-nous parfois les soupirs ou les cris de cet enfant enfermé? Si oui, tout est possible. Si oui, tout est sauvé. Jésus-Christ peut nous tendre la main et nous dire, comme à l'enfant de Jaïr dans l'Évangile, « Petite fille, c'est moi qui t'appelle, eh bien mets-toi debout. » Saint Marc, chapitre 5, verset 41. Chers amis, avant de terminer ce court message, le Seigneur m'a donné quelques pensées, quelques paroles que j'aimerais vous dire. Il faut encore que je puisse me rappeler, mais le Saint-Esprit, il va le faire. La fondation sur laquelle repose votre bonheur, c'est la remise totale que l'on fait à Dieu de l'instant qui passe. Sur cette fondation s'élève ensuite la superstructure de la joie que procure sa communion. Voilà pour chacun la place, la demeure que le Seigneur est allé vous préparer. Trop souvent, ses disciples n'ont pas compris ces paroles et n'y ont vu qu'une promesse concernant l'au-delà. Et trop souvent, oui, beaucoup trop souvent, ils n'ont vu dans la vie présente qu'un combat de tous les instants, reléguant ainsi dans la vie à venir la récompense et la joie. Appliquez-vous à mettre en pratique tout ce que le Seigneur vous dit, et il en résultera pour vous une compréhension des choses, une pénétration d'esprit, une vision et une joie qui dépasseront en vérité toute humaine intelligence. Les plans de Dieu sont véritablement admirables et vont bien au-delà de votre attente la plus haute. Maintenez-vous dans la pensée d'une protection, d'une sécurité, d'une conduite providentielle de tous les instants. Que le calme et la paix ne quittent jamais votre esprit. Tout le reste est secondaire. D'ailleurs, Jésus-Christ s'en charge. Votre affaire à vous, c'est de demeurer calme en sa présence, de ne céder à aucune agitation intérieure, ne fût-ce que un instant. Des années de bonheur peuvent être compromises par une défaillance momentanée. Peu importe la cause de votre trouble. Il vous appartient de ne rien entreprendre aussi longtemps que le calme complet n'est pas rétabli. Tout obstacle détourne sa puissance dans des canaux perdus. Déversez donc sur les autres toutes les grâces que vous recevez. Oui, déversez. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas bénir une vie qui refuserait d'être un canal. Son Esprit Saint ne souffre pas de stagnation, pas même de repos. Il est la puissance qui se répand. Oui, qu'à travers vous, il répand ses grâces sur les autres et la bénédiction qu'il leur destine. Demeurez donc en votre Seigneur Jésus-Christ. Voyez un peu quelles sont les âmes à qui vous pouvez être en bénédiction chaque jour. Et pour cela, maintenez-vous fermement en sa présence. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Dieu puissant, Dieu saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec une brûlante gratitude que nous songeons à la manifestation de ta grâce en l'apôtre Paul. Tu as fait resplendir ton évangile en lui, le consacrant héros et ambassadeur de ton Fils. Nous confessons avec tristesse avoir souvent méconnu ce message de joie et lui avoir trop souvent refusé l'accès de nos cœurs et de nos vies. Pardonne-nous. Et qu'il retentisse à nouveau, qu'il soit proclamé à notre peuple qui s'en est détourné, qu'il soit annoncé à l'humanité tout entière qui tâtonne sur la route qui mène à toi, qu'il soit prêché à tous ceux qui l'ignorent encore aujourd'hui, comme à ceux qui l'ont oublié. Nous avons besoin de toi. Nous t'implorons, parle Seigneur, à nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous voulons écouter. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et ça, c'est une réalité. Nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages. Et je souhaite et j'espère à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.